pourquoi j'écris. Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Aucun croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont antiquaires.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Bienvenue, amis lectrices, auditeurs et vice-versa. Pour cette avant-dernière émission consacrée à la littérature, Du vent dans les pages vous propose de retrouver, comme chaque mois, Alice et Alex pour leur chronique Enlevée et élevée, une rediffusion de la séquence invitée consacrée au roman policier, et direction les États-Unis pour notre lectrice de poésie, tout ça, bien entendu, sur Studio Zef.
Page volante. Aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dozier.
Lipogramme. Un lipogramme n'est pas un énième critère nutritionnel mesurant notre poids de graisse ou notre taux de cholestérol, mais une figure de style dans laquelle sont délibérément exclues certaines lettres de l'alphabet. Par exemple, « Les ventes de rennes énervent les fées » est un lipogramme où toutes les voyelles, à l'exception du E, sont exclues. Dans ce cas, il s'agit également d'un monovocalisme. Roi du palindrome, un texte que l'on peut lire dans les deux sens, Georges Perec devint celui du lipogramme. Il ne se contenta pas d'écrire une maigre phrase où une lettre serait absente, voire un paragraphe ou même un court chapitre, il écrivit un livre en 1968 intitulé « La disparition », dans lequel le E n'apparaît jamais. 300 pages et 50 000 mots sans la lettre la plus utilisée en français. Seul le nom de l'auteur sur la couverture ne respectait pas la contrainte. Non seulement le E avait disparu dans la forme de l'écriture, mais cette absence constituait également le fond de l'intrigue du roman. Depuis sa parution, on étudie cet ouvrage et l'on a constaté qu'il contient en fait un bien plus grand nombre de contraintes que la seule disparition du E. La disparition n'est pas le premier livre lipogrammatique. En effet, et Perec le savait, en 1939 avait paru un ouvrage d'Ernest Vincent Wright, un écrivain américain, intitulé Gatsby. Imprimé à compte d'auteur et le stock initial ayant brûlé, l'ouvrage est d'une grande rareté et vaut une petite fortune. Il n'a jamais été traduit en français. Si on peut considérer comme une gageure d'écrire un livre où une lettre a été sciemment omise, il faut aussi considérer le travail que doit représenter pour un traducteur la tâche de transcrire dans une autre langue un tel roman. La disparition a été traduite en 8 langues, en anglais, en allemand, en néerlandais, en suédois et en turc, la contrainte du E est respectée, en espagnol et en japonais, c'est le A qui disparaît, en russe, le O est absent. Évidemment, Perec ne pouvait se satisfaire de cet exploit et en 1972, il fit paraître Les Revenantes, qui est un monovocalisme en E, seule voyelle utilisée dans le récit. Georges Perec, membre de l'Oulipo, dont on a déjà parlé, considérait que les contraintes d'écriture étaient une source d'inspiration. On a aussi considéré que la disparition de sa famille lors de la Seconde Guerre mondiale avait été l'un des thèmes centraux de son œuvre. Mais Perec a peut-être donné lui-même la signification entière de sa pensée et de son travail, et qui d'ailleurs donne une clé pour comprendre la vie mode d'emploi, ouvrage à nul autre pareil. Il le fit bien entendu sous forme lipogrammatique, « Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère ». Gallimard sort ce mois-ci dans la collection La Pléiade l'œuvre complète de Georges Perec en 2 volumes, ainsi qu'un album qui lui est dédié. Juste récompense à l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, trop tôt disparu, auquel on aurait pu quasiment décerner un prix Nobel de littérature pour chacun de ses livres.
Du vent dans les pages, sur Studio Zef. Du vent dans les pages continue sur Studio Zef après la trompette inquiétante et magnifique de Miles Davis, en guise de transition vers notre sujet du jour, le roman policier. Familièrement appelé polar, le roman noir est aujourd'hui un genre majeur de la littérature. Des années 50 aux années 80, on achète son petit polar pour partir en voyage. C'est le roman de gare vite écrit, vite lu. À présent, nous avons une cinquantaine de festivals polar en France, des dictionnaires, revues et blogs spécialisés. Nous pouvons assister à des conférences sur le sujet, lire des thèses d'universitaires et presque tous les éditeurs veulent leur collection noire. Alors pour parler du sujet, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table aux libertés trois lecteurs passionnés du genre, Corinne, Franck et François. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ça va ? T'es bien installé, Franck ?
Oui, ça va.
Oui, je disais tout à l'heure que le casque t'allait vraiment à merveille.
Merci.
Ah oui, non, je t'assure, hein, si t'avais des cheveux, ça aurait pas fait pareil.
Merci.
Merci, merci. Merci. Je t'ai plu. Voilà. Alors, François, j'allais dire, tu nous accueilles chez toi, mais en fait, ça y est. C'est le Liberté.
C'est plus chez moi.
C'est plus chez toi ?
C'est plus chez moi.
Bon, c'est quand même un peu...
Je m'invite.
Tu t'invites. Mais c'est bien parce que tu as du temps pour faire de la radio avec nous et ça, c'est pas mal.
Voilà, ça, c'est bien. Puis je vais avoir du temps pour lire aussi. Ça, c'est une bénédiction.
Ouais, exactement. Corinne, tu es voisine du Liberté.
Mm-hmm, hein, tout à fait,
donc,
ouais.
Voilà, tu n'es pas loin. Alors, je voulais vous commencer pour, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de parler des livres que vous avez amenés, parce que vous en avez amené un petit peu quand même, au travers de témoignages en fait, d'auteurs de polar. Je trouvais intéressant, il y avait quelque chose qui ressortait, qui était assez frappant. Les écrivains disaient « Le polar est une évolution du roman du XXe siècle », en faisant référence un peu à Balzac, Zola, dans le sens d'une continuité de la description de la société contemporaine. C'est-à-dire, ça continue... à décrire la société dans laquelle nous vivons avec toutes ces couches sociales, mais peut-être avec un petit changement aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de violence. Je voulais savoir si vous étiez, au travers de vos lectures, si vous étiez d'accord avec cette théorie. Voilà,
oui,
François.
Oui, tout à fait. Je trouve que le polar, en ce moment, c'est le lieu dans la littérature où on a le plus de faits de société, où on suit le plus en direct l'évolution des mœurs. La violence, oui, il y en a. Il y en avait aussi au 19e, mais on ne l'exprimait pas de la même façon.
Oui.
Voilà.
Oui. Et Franck, est-ce que ça t'évoque la même chose ?
Oui, et puis on peut dire aussi que dans... pas que dans le style polar aussi, on trouve des sujets de société aussi, dans les romans classiques aussi, d'aujourd'hui. Donc mais d'un point de vue violence, oui, effectivement. En plus, je trouve qu'il y a quand même une escalade. Les auteurs cherchent à être plus originaux encore aujourd'hui dans les meurtres et les descriptions des scènes de crime, quoi, par exemple.
Plus originaux, c'est-à-dire ils font preuve d'inventivité exacerbée.
Je trouve, oui.
C'est vrai, t'as cette impression-là.
Ouais. Et puis, il faut dire aussi que techniquement, on n'aborde plus du tout le meurtre comme au 19e. Science. Maintenant, il y a toute la police scientifique derrière. Forcément, on a des descriptions autres.
Ouais.
Avec Corinne. Des moyens scientifiques qui permettent de faire des enquêtes sous un autre angle, sous un autre œil, les moyens Internet, les moyens modernes, technologies, fait que on voit autrement.
Mais il y a peut-être une base qui reste justement à travers cette fenêtre qu'a la littérature en général sur le monde dans lequel nous vivons, avec cette lunette un peu particulière du roman noir, à l'opposé, alors on fait opposition au roman blanc, on appelait ça le roman blanc, donc l'autre littérature. Voilà, donc c'est un peu schématique, mais en gros, ça se passe un peu comme ça. Quoi. Alors, François, je te sens prêt là pour nous parler d'un bouquin là qui est devant toi.
Eh ben, allons-y.
Allez, allons-y. Vas-y, lance-toi.
Je vais vous parler de Territoire d'Olivier Norek. Olivier Norek, c'est un auteur français qui écrit un polar qui se passe dans le 93 et c'est toutes les magouilles entre politique et petits délinquants de façon à quelque part à gruger l'État pour obtenir des subventions pour changer ce qui se passe dans les banlieues. On essaie d'avoir des subventions de l'État qu'on détourne après. Donc c'est une belle description de à la fois du monde politique et, et des banlieues.
Voilà. C'est un ancien flic, Olivier Norek. C'est ça, c'est un ancien flic. Voilà.
Oui.
Donc, parce que moi, j'ai parfaitement...
Bien
voilà, moi aussi, j'ai reconnu les endroits, j'ai reconnu les lieux, et tout à fait véridique, quoi. C'est complètement ça.
Franck, tu disais ?
Parce que quand on... Il explique justement pour avoir une paix sociale, c'est-à-dire qu'il y en a qui tiennent les quartiers.
Est-ce que ça fait appel à quelque chose de connu là ? Non, rien de... Je sais pas, moi ça me fait penser à un truc pas très vieux. Comment acheter la paix sociale dans les quartiers chauds ? Les hommes politiques, il n'y en a pas qui ont déjà fait ça ?
Oui, non, mais c'est, voilà, c'est un mécanisme qui... Et là, on place des gens dans... C'est-à-dire de ces milieux-là, on les fait... On les subventionne, je dirais, la mairie... leur propose des postes à la famille, par exemple, aussi des appartements et des choses comme ça, donc ce qui permet de maintenir le calme dans les cités, quoi. Voilà.
Est-ce que dans ce, on peut dire que c'est un policier social, comment on peut le décrire,
politico-réaliste,
dans la réalité totale, dans le bain de des cités de Seine-Saint-Denis.
Oui, tu disais que tu avais reconnu les
lieux,
complètement, tu connais
bien
cette
Aubervilliers, la Courneuve, tous ces endroits-là, tout ce qui est nommé.
Et alors, c'est un ancien policier, l'auteur ?
Oui, il me semble bien.
Oui.
Il sait de quoi il parle.
Oui. Franck ?
Alors moi, j'ai apporté un livre que je n'ai pas encore lu.
Ah, ça, c'est bien.
Voilà. Mais que je connais bien l'auteur.
Alors ça, c'est intéressant. Alors tu vas essayer de nous expliquer justement le choix, en fait, quand tu es devant ton rayon de bouquins policiers dans une librairie. Qu'est-ce qui va t'attirer d'abord ? Tu vas prendre la quatrième de couve, tu vas lire le résumé.
Oui.
Et est-ce qu'il y a un genre, un style particulier qui va t'attirer ?
Déjà, il faut que je connaisse l'auteur. Et pour ça, je fais confiance à ceux qui m'entourent, d'ailleurs, des gens qui vont me dire, tiens, lis celui-là ou un tel, je pense que tu vas aimer. Quoi. Parce que j'ai un peu de mal à découvrir de nouveaux auteurs.
Donc à partir du moment où on te conseille...
Ouais. Parce que moi, mes choix, des fois, je suis assez déçu sur ce que j'ai pris. Et donc, j'ai pas trop envie d'être déçu à chaque fois. Et donc, je prends sur recommandation. Et donc là, moi, c'est James Ellroy, parce que je le connais depuis quelques années. Et j'étais tombé red dingue des premiers livres que j'ai lus. Donc, c'était la trilogie Lloyd Hopkins. Donc, il y avait La Lune Sanglante, il y avait Brown's Requiem.
Il y avait un personnage central dans cette trilogie
il y a des personnages qui traversent le roman. Surtout chez les flics. Un flic là, apparemment, c'est le début d'un des policiers qu'on retrouve assez régulièrement après, qui devient chef de la police, qui s'appelle Dudley Smith. Et c'est un flic. Chez James Ellroy, les flics sont souvent à la limite de l'honnêteté, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de flics ripoux qui frôlent avec l'illégalité, quoi. Donc, moi, j'aime bien parce qu'ils ont tous des fêlures. Ils sont tous. C'est pas le beau policier justicier, quoi. C'est souvent. Ils sont le nez dedans et ils ne sont pas toujours réglo pour pouvoir régler des enquêtes, justement. Donc, c'est ce qui me plaît chez lui, quoi. Et il y a le contexte historique aussi. Bah, la quadrilogie qu'il a fait, le Quatuor de L.A., se passait entre les années 40, donc la découverte de le Dahlia noir, c'est-à-dire Betty Shirt, celle qui est morte dans un terrain vague, jusqu'à. Le Quatuor couvre jusqu'à l'élection de Kennedy. Donc, ça nous fait 20-25 ans de vie, enfin surtout de Los Angeles, parce que c'est la ville qu'il décrit régulièrement dans ses romans. Et donc le contexte politique, historique de la ville, quoi, et de l'Amérique aussi en ce temps-là. Quoi.
Donc, il nous fait une description de,
voilà,
de cette Amérique-là.
Le contexte historique, ouais, on pourra certainement y trouver aussi bien le macartisme que les choses qui se sont passées. Quoi. Donc, la prohibition, la mafia, il est assez régulièrement cité. On a tous les traits qui font les mythes de l'Amérique, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais, donc, Et les ressorts du roman policier sont là, c'est-à-dire il y a enquête, il y a crime,
il y a rivalité entre policiers, il y a collusion entre les criminels et la police, les trafics en tout genre, les meurtres, les médias sont très présents aussi, surtout les journaux à scandale. On peut trouver, il y en a qui font des chantages, on trouve tout ce qui a fait. On peut même voir, par exemple, ça a été apporté à l'écran et on s'est très bien aussi résumé à l'écran. Donc, on peut bien le voir. C'est génial. Donc là, moi, j'ai pris le dernier qui démarre une nouvelle quadrilogie qui se passe là pour l'instant, c'est au niveau de la guerre du Japon, donc c'est aux États-Unis. Et bon, je ne l'ai pas encore lu.
C'est une parition de cette année ?
Oui, l'année dernière, pardon. L'année dernière. Parce que là, il est paru en poche, donc ça fait un an. Donc voilà.
Okay. Tu peux nous dire le titre ?
Alors, c'est Perfidia.
James Ellroy.
De James Ellroy.
Sorti en 2015.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est mon prochain.
C'est un sacré pavé. Hein.
Oui, c'est mon pavé.
Corinne ?
Oui.
Je vois que tu as des petites notes.
Ah oui, oui, hein, moi j'ai besoin d'écrire. Voilà, aussi. Autant besoin de lire que d'écrire.
Ah, c'est ça.
Moi, la partie historique, le besoin de parler d'histoire aussi, j'en ai besoin dans les livres, j'ai besoin de découvrir d'autres pays, j'ai besoin de découvrir d'autres mœurs, d'autres habitudes. Donc, je suis assez ouverte. Alors, j'écoute la radio, je lis les critiques qui sortent sur les bouquins. Et je choisis en fonction de ça. Alors c'est comme ça que j'ai découvert Robin Cook. J'étais Dora Suarez. J'ai trouvé que c'est extrêmement bien écrit. Celui qui cherche à trouver l'assassin se met dans la peau de celle qui a été tuée. C'est assez surprenant comme façon de procéder. L'histoire avec Philippe Kerr, la trilogie berlinoise, L'Hôtel Adlon, Vert de Gris, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, est très très intéressante sur le nazisme, avec un regard interne, si je puis dire. Puisque le héros est un lieutenant, il me semble, nazi, enrôlé malgré lui. Comme quoi, on n'est pas toujours adepte de ce qu'on... Non.
C'est le personnage principal ?
Oui, c'est le personnage principal, avec des retours en arrière. Mais tout se passe pendant la... Non, pas tout. Une bonne partie se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il se réfugie, bien entendu, en Amérique du Sud. Et on a une suite un petit peu. Et puis, j'ai un autre bouquin historique qui m'a beaucoup plu, qui se passe pendant la... juste après le franquisme, Victor de l'Arbol. Le titre, c'est La tristesse du samouraï, un auteur espagnol. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir un avantage. Et sur l'Amérique, pour rejoindre un peu ce que disait R.J. Ellroy.
Oui.
Avec des choses sur l'Amérique, sur la. Pas la mafia, mais la CIA, la NSA. Passionnant.
Oui, passionnant, tout à fait.
Qui décortique, étudie, remet en cause et donne envie d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin, souvent après je vais aller chercher ailleurs à compléter ce que j'ai appris à travers ce livre. Même si c'est un livre policier qui était pourtant, oui, maintenant un peu plus de valeur littéraire, mais qui n'en avait pas beaucoup avant.
Et donc si j'ai bien compris, ton intérêt pour la littérature policière, c'est vraiment que ça t'apprenne aussi,
en plus du suspense, de l'intrigue. J'aime aussi apprendre des choses, me retrouver comme dans le bouquin de Norek, là où là je connaissais les endroits, les lieux, ou alors partir ailleurs, oui, en effet.
On avait parlé ensemble d'un bouquin de
Caril Ferret.
Caril Ferret,
c'est excellent ça. C'est excellent, ça. Enfin,
qui se passe en Argentine. Argentine du Sud.
Alors, Mapuche, en Argentine.
Oui.
Et qui est le dernier paru. Il n'en a pas ressorti. Enfin, je crois que. Il y en a un nouveau, mais ouais, voilà, c'était le dernier, Mapuche.
Il en a sorti un dans la série du Poulpe aussi.
Oui, aussi.
Ah
voilà,
oui, qui est très
qui
bon.
Est hilarant.
Ah oui, là, oui, c'est
alors
drôle,
que
là.
Tous les autres sont très violents, très noirs, là, il s'est lâché et il s'est amusé. Ouais. Il a fait un.
Mais il écrit pour les enfants.
Hilarant,
aussi.
Qui est très bien.
Ouais. Tout à fait.
Il écrit pour les enfants, il fait d'autres choses aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et Mapuche, c'est excellent. C'est celui qui se passe en Argentine, mais
avec
les autres qui se passent en Australie.
Les dames sur la place de Mai.
Oui,
oui, voilà, exactement.
Avec encore une dénonciation de dictature, quelle qu'elle soit.
Mais, oui, sa caractéristique à lui, c'est qu'il il resitue l'action policière juste après des dictatures, où il y a encore des gens qui sont très impliqués dans la société. C'est très bien fait parce que ça resitue le contexte et on sent bien le poids du passé, le poids de la dictature qui vient de disparaître. Très bien fait, ça. Ouais.
Puis ce sont effectivement des personnages, c'est marrant, dans un peu tous les livres que vous avez cités, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une fragilité des personnages. Ils sont pas, il n'y a pas une notion de bien ou de mal chez les humains qui traversent en fait ces romans.
C'est les héros.
Que ce soit le terme de héros est mon... je trouve aujourd'hui la littérature policière d'aujourd'hui est moins basée là-dessus. Avant,
c'est par Arsène Lupin. Hein,
voilà. Voilà, exactement. Voilà, on n'est plus dans ce registre-là. Voilà, ni Sherlock Holmes. Et ça donne probablement un aspect déroutant aussi à la lecture.
Bah, c'est pas un policier qui court après, hein, ça peut être n'importe qui. Dans un bouquin, c'est un bibliothécaire dans J'étais de race, dans au lieu de dire de Noir-l'Étang, c'est le bibliothécaire qui fait une enquête sur ce qu'il a vécu dans le passé, dans son enfance. Et il fait une recherche, mais il n'a rien à voir avec la police, le criminel. C'est une recherche comme ça.
Et il y a des auteurs, alors là je connais moins, je ne sais pas si toi François t'as déjà lu, il y a des auteurs qui sont plus spécialisés dans le Moyen-Âge, toute cette période-là.
Ah oui.
L'apothicaire.
Moi, à part Umberto Eco.
Oui, il y en a tout un paquet.
Il y en a un ici que j'ai lu qui s'appelle Imprimatur. Si tu l'as encore, un gros pavé qui se passe au Moyen-Âge.
Oui.
Et pendant la peste en Italie, je crois. Et en fait, c'est sur la fuite. L'histoire, je ne me rappelle plus trop bien, mais c'était il y a un petit moment de ça. Et en fait, il y a une peste qui arrive dans une auberge. Donc, ils sont tous confinés à l'intérieur. Il y a des intrigues. Et c'est très historique. Donc, ça raconte l'histoire de France et aussi la fuite de Guillaume d'Orange vers l'Angleterre, qui a donné suite à la guerre du protestantisme.
Sans aller si loin, Jean-François Parot.
Oui, exact.
C'est excellent. En plus, c'est une écriture.
C'est pas le Moyen-Âge.
C'est pas le Moyen-Âge.
C'est un roman historique. Voilà. C'est très bien fait.
Avec une écriture.
Mais alors, c'est marrant parce que, à la lecture de ce genre d'ouvrage, surtout les auteurs qui sont plutôt romans, littérature moyenâgeuse, quand on rentre dans le polar, on dirait vraiment. Enfin, moi, j'oublie que c'est un polar. Bien sûr, il y a une intrigue quand même, parce que, dans Jean-François Parot, je me souviens plus le nom il y a un inspecteur
Nicolas Le Floch.
Nicolas Le Floch, qui a été lui aussi adapté d'ailleurs. Oui. On n'arrête pas.
Hein. Moi, à part Le Nom de la Rose de Umberto Eco,
qui est un excellent roman.
Ouais. Oui. Il y a une intrigue.
Voilà.
Extraordinaire. Oui, c'est construit comme un roman policier.
Voilà, ouais. Moyen-Âge.
Pas de souci.
Ouais. Tout à fait. Ouais. François, tu voulais nous parler d'un autre livre
Oui, j'en ai tout un. Ouais. Je ne sais jamais par lequel commencer.
Douglas Kennedy.
Piège nuptial. Bon, ce n'est pas à proprement parler. C'est pas un roman policier dans le sens où il n'y a pas de mort. Mais par contre, toute l'intrigue est du type policier. Il n'y a pas de souci. Et c'est à la fois angoissant, amusant. C'est vraiment.
C'est des personnages qui n'ont pas beaucoup de chance. Hein.
C'est des personnages qui n'ont aucune chance. Ça commence par une belle rencontre amoureuse et ça se termine par une fuite d'une espèce de secte.
Communauté. Alors, c'est Piège nuptial de Douglas Kennedy. On peut le trouver en poche, qui est prolixe aussi.
Il a écrit énormément de choses.
Énormément,
oui. Oui. Mais c'est toujours Douglas Kennedy, c'est toujours un bonheur à lire. Donc.
Moi, j'aurais voulu qu'on évoque aussi un auteur français, Jean-Claude Izzo.
La trilogie.
Trilogie. Ouais. Parce que c'est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est un peu à part, lui aussi, dans le paysage.
Il n'y a que la trilogie, déjà. Ça...
Oui, mais il est décédé très jeune.
Bon, il a écrit un roman aussi, ou deux, je crois.
Un roman, il a écrit de la poésie.
La poésie.
Voilà. C'était un universitaire, donc il a une qualité d'écriture aussi. C'était quelqu'un de baigné dans la littérature. Quoi.
Mais on sent, quand il parle de sa ville, Marseille, on sent une... c'est très touchant. C'est vrai qu'il faut être en forme.
Gay et il s'intéresse beaucoup aux petites gens, aux laissés pour compte de la société. Donc c'est aussi ce qui fait son charme,
plutôt Jean-Christophe Granger.
Vas-y Franck.
Moi je vais bientôt acheter Jean-Christophe Granger, il en a sorti deux. Il s'appelle Lontano et Congo Requiem.
Je crois. Bien des deux.
Et j'attends qu'ils sortent en poche. Donc j'ai été les voir à la bibliothèque, à la librairie, mais ils ne sont pas encore sortis en poche.
Et il rejoint un petit peu Karine Ferret dans quand il dénonce les dictatures, parce qu'il a fait quelque chose comme ça, Granger. Un voyage en Amérique où justement...
J'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu celui qui s'appelle La Ligne Noire. D'ailleurs, j'ai entendu une interview de lui qui disait que c'était son meilleur roman qu'il avait écrit. Et je l'ai trouvé, c'est ce qu'il a dit.
Il l'a dit, moi, j'ai lu à peu près tous ceux qui sont venus avant lui. J'ai pas trouvé que La Ligne Noire était le meilleur. Mais bon.
Lui, il considère que c'est son meilleur qu'il a écrit. Et c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai lu aussi et j'ai trouvé vraiment très...
Alors, ton avis ? Tu peux nous raconter rapidement ?
Si vous voulez, c'est un tueur qui... un Français qui fait de la plongée sous-marine et qui se retrouve en Asie du Sud-Est, donc au Vietnam, je crois. En fait, il assassine des femmes.
C'est un serial killer, donc.
Ouais, voilà. Et en fait, il est, la situation, je dirais, est assez compliquée parce qu'il est des cabanes, il les rend hermétiques. Et il étouffe ses victimes à l'intérieur, le sang change de couleur et il badigeonne les victimes avec un genre de miel royal, ce qui fait que quand ils font, tout se vide complètement à un moment donné, quoi. Et donc, on a un espèce de tueur, mais complètement barré, qui s'appelle Jacques Reverdy, d'ailleurs, le tueur. Et donc, il y a, en France, il y a, je crois que c'est un journaliste, enfin, qui fait une thèse de...
Non, c'est un journaliste.
Oui, c'est un journaliste. Et,
qui a perdu sa femme dans des conditions, avec, il a des moments de coma profond pendant des mois, il est coupé de la vie.
Voilà.
Et, ouais.
Et après, il se fait passer pour une étudiante. Il va voler sa carte d'étudiante et tout. Et il va essayer de rentrer en contact avec ce fameux tueur. Et il va se louer une relation entre les deux. Et finalement, lui, il va couper les liens, le journaliste. Et en fait, finalement, l'autre, il va essayer de la retrouver. Parce qu'il croit que c'est toujours cette femme. Et donc, il va se sauver. Et voilà.
Tu ne racontes pas la fin.
Je ne raconte pas la fin. Voilà, je m'arrête.
Tu t'arrêtes là.
Et non, j'ai trouvé génial. Quoi.
Tu peux juste rappeler le nom et l'auteur.
Alors, c'est La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger.
Corinne, tu voulais
rajouter des auteurs français. Il y a Franck Tillier aussi, qui écrit en s'inspirant de recherches scientifiques qu'il a fait. Il fait des études avant de vérifier des choses sur la mémoire. Et ensuite, il met en pratique ce qu'il a trouvé dans ses recherches scientifiques au travers de policiers. Et puis il y en a un qui a eu un prix Goncourt pour un livre qui n'est pas policier, mais moi j'ai adoré, c'est Pierre Lemaître. Les livres avec une trilogie, un petit héros, un petit flic, un petit inspecteur ou un petit commissaire, je ne sais pas, haut comme trois pommes, là, qui est extra. Alors en plus,
commissaire Charcot.
Très très bien écrit. C'est ce qui est agréable. Bon, c'est lui qui a écrit Revoir là-haut.
Ça fait plusieurs fois que tu dis c'est bien écrit. Alors ça,
bah oui.
C'est-à-dire.
Ah bah ça fait partie.
T'es sensible,
Alors, ça quoi. Je peux lire des choses qui à mon goût sont peut-être pas forcément aussi bien écrites. Je suis assez embêtée avec les traductions. Alors quand je lis Indridason, l'auteur islandais, au niveau de la traduction ou de l'écriture, je la trouve pas très intéressante. Oui. Bon. Par contre, ce sur quoi il se base pour écrire, pour trouver ses idées, c'est toujours très bon. Et ça permet aussi de faire un peu d'histoire, de découvrir un peu l'Islande, l'écriture.
Le problème des traductions, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'auteur qui écrit pas terrible ou si c'est le traducteur qui ne sait pas casser l'oignon.
Alors, comme j'en sais rien, bon.
C'est ça. Tu as très bien résumé la problématique.
Alors, je lis avec moins de plaisir que quand je trouve qu'en plus, il y a l'écriture qui va avec.
C'est important, l'écriture, parce que même une belle intrigue très mal écrite, on n'a pas de plaisir.
Ça prend pas.
On n'a pas de plaisir. Hein.
On a du mal à le finir.
Vient d'un ensemble, il faut qu'il y ait une intrigue et puis une écriture, c'est essentiel. Et puis il faut aussi que ça se raccroche à des choses, que ça nous renvoie à d'autres connaissances. Pas tourner en rond sur rien, quoi.
Et est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de prendre un polar et d'être tellement happé par le suspense, par l'intrigue, par l'histoire, de ne pas vouloir le lâcher, de le lire?
Toutes les nuits.
Presque, oui.
J'en étais sûre. Je ne sais pas pourquoi je le sentais.
Oui.
Et vous pensez que ça c'est propre à la littérature policière?
Oh non,
non. Un bon livre. Moi, j'appelle ça le syndrome encore un chapitre. C'est-à-dire que quand je termine un chapitre, j'ai encore un. Donc, j'arrive, de fil en aiguille, j'arrive au bout du livre.
Et une fois le livre terminé, est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ?
Je suis énervée, moi. Ça m'énerve d'arriver à la fin d'un livre. Ah, bah, à chaque fois. Ça m'énerve.
T'aurais envie que ça continue ?
Ah ouais, et ça, c'est pas possible, mais je... Bon, bah, ça y est, c'est fini. Je suis avide, j'ai envie de lire ou autre chose du même auteur. Ou voilà, ça déclenche.
Alors, du coup, tu ne lis que du roman policier ?
En ce moment, oui.
En ce moment, ouais.
Oui, en ce moment, je fais que ça. Mais comme j'ai beaucoup lu autre chose avant, je me dis bah ça doit être des périodes.
Franck, toi aussi.
Non, pas dernièrement. J'ai dû retaper Le Seigneur des Anneaux. Les trois, plus le Silmarillion, donc quatre livres en trois semaines. Là, donc, mais là, je vais me remettre au roman policier, ouais. Oui, parce que, mais je ne m'arrête pas qu'au roman policier. Hein. Donc avant, j'ai lu Ken Follett, la série du siècle. Génial.
J'ai
pratiquement pas dormi. Quoi.
Producteur de best-sellers, dont le merveilleux Pilier de la Terre.
Oui, et la suite. Et la suite. Ouais. Et là, La série du siècle, je l'ai littéralement, j'ai pas pu m'arrêter si facilement quoi. C'était vraiment génial.
Ce qui me fait sortir d'un policier, c'est un auteur comme ce que je vois là, Carlos Ruiz Zafón.
Oui.
L'ombre du vent. Voilà. Oui. Ça, j'ai pas fait que des policiers parce que voilà.
Ouais, mais là aussi, il y a un suspense,
il y a un petit suspense. Recherche.
Ça pique un peu quoi. Ouais. Hein. François, tu alternes, toi, entre...
Oui, j'alterne, mais j'aime bien lire de l'histoire. Donc, policier, histoire, j'alterne. Voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est, en lisant du policier, c'est un moment de détente ?
Ah, oui.
Par rapport à l'histoire, ça demande moins de concentration. On avance, il y a moins de choses à se souvenir, il y a moins de choses à mettre de côté, mais...
Avec R.J. Ellery dans Les Anonymes.
Il faut aussi.
Ah bah dans Ellroy, il y a tellement de personnages qu'il faut bien.
Oui, aussi,
ça dépend. Voilà. Ça dépend des auteurs. Quand même. Hein.
Il y a effectivement le livre qu'on va lire très vite.
Mais si tu veux, quand c'est dans un policier, il faut s'en souvenir le temps qu'on lit le policier. Voilà. L'histoire, on est censé conserver ça ad vitam aeternam. C'est pas la même démarche.
Dans Philippe Kerr, je trouve que l'histoire, elle reste.
Elle est très importante.
Parce qu'elle est très importante. Oui.
Il y a d'autres choses aussi dans les romans policiers. Par exemple, j'ai celui-ci de Paula Hawkins, La fille du train. Et là, en fait, on est dans la peau d'une alcoolique. Donc, on voit par ses yeux le monde comme si on était soi-même alcoolique. Donc, ça apporte d'autres lumières.
Voilà. On est dans la peau du personnage principal.
On est dans la peau d'un personnage qui a quelque chose que... Bon.
Donc, la narration est à la première personne, en fait.
Franck, tu vas sortir.
Oui, mais souvent, elle est à la première personne. Et c'est une fille qui est dans le train tous les jours et qui voit une scène se dérouler. Et bon. Mais comme elle est tellement alcoolique, elle n'est jamais sûre de ce qu'elle a vu ou pas vu, de la réalité, de la non-réalité. Et on progresse comme ça avec elle jusqu'au dénouement. Et
La fille du train qui a été adaptée récemment au cinéma. Voilà. Tu peux rappeler l'auteur ?
Paula Hawkins. Hawkins, oui.
Corinne, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tes choix ? Peut-être on va terminer par un conseil pour les vacances de Noël. Vous n'avez pas un petit conte noir de Noël ?
D'un auteur un peu moins récent, là, Thomas H. Cook, Au lieu dit Noir l'étang. Ouais. Je parlais de l'écriture parce que ce que j'aime aussi, c'est quand, quand je lis, je vois ce qui se passe. Et ça, c'est important.
Donc ça développe ton imagination immédiatement et tu pars...
Voilà. Et c'est le cas de Au lieu dit Noir l'étang de Thomas Cook. Ça, c'était vraiment flagrant de voir les choses. Et puis, Ma puche de Caryl Ferret ou La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol pour changer complètement de style. Parce que là, c'est...
On voyage, on apprend.
Voilà, on apprend, on est toujours un peu dans l'histoire quand même.
Oui. On a bien compris que c'était ton truc. Franck ?
Non. Mais à part aussi Maxime Chatham que j'avais lu là.
La promesse des ténèbres.
Ouais.
Tu te souviens un petit peu de...
Ouais, c'est l'histoire d'un journaliste aussi. Et il y a une nana qui se tue devant lui. Elle se suicide et il va dans les bas-fonds de New York. Et bon, c'est un peu étrange comme livre, mais c'est pas mal. Mais j'étais un peu réticent à Maxime Chatham, mais finalement, non, j'ai apprécié quoi, celui-là.
François, tu nous donnes un petit ou deux petits conseils ?
Oui, bah, un des livres que j'ai lu récemment et qui m'a bien intéressé, c'est de Chris Nelscott, Blanc sur Noir. Ça se passe dans les années 60 aux USA et c'est sur fond de racisme. Et là, on voit à quel point dans les années 60, être noir était difficile et à quel point leur vie n'avait pas d'importance... pour les blancs.
Ouais, tout à fait.
Donc,
très bon bouquin. Ouais.
Très bon bouquin. Ouais.
Un deuxième, hein ? Vas-y. Hein.
Après, il y a des. Bon, alors, j'aime bien aussi aller voir dans les autres pays. Le Desma, bon, c'est pas un livre extraordinaire, mais bon, c'est un espagnol. Alors, bon, on change. De... Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas non plus des merveilles, mais ça m'amuse. Par exemple, on a Estelle Monbrun, Meurtre chez Tante Léonie. Donc pour les Proustiens, c'est un petit sucre d'orge.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer cette émission ?
Une petite bière ?
Une petite bière, bon, ça je vais couper ça. Eh bien, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir participé à cette émission. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, parce que vous êtes des lecteurs passionnés et ça se sent. Du vent dans les pages continue avec la chronique d'Alice à l'abordage et Mométis. À très bientôt sur Studio Zef.
Il faut fermer les yeux, regarder l'homme solitaire, perdu dans ses pensées, la mer a
Du vent dans les pages sur Studio Zef.
À la bondage !
Des essais contre les idées reçues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre paru en 2016 aux éditions La Fabrique qui s'appelle « Un boycott légitime », sous-titré « Pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël ». Et c'est de deux auteurs, Eyal Sivan, cinéaste israélien, et Armelle Labori, qui est productrice de films documentaires. Alors BDS, c'est quoi ? En toutes lettres, BDS, ça signifie « Boycott, désinvestissement, sanctions ». Il s'agit d'un mouvement qui a été lancé officiellement en 2005 par 171 ONG palestiniennes qui se sont inspirées des campagnes de boycott organisées contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Alors l'idée, c'est d'inciter tous les citoyens du monde à boycotter les produits israéliens pour obtenir la fin de la colonisation en Palestine, l'égalité des droits pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Parmi les soutiens à BDS, on compte des gens comme Ken Loach, Mike Lee, Jean-Luc Godard, Viggo Mortensen ou encore Eric Clapton. Alors forcément, il y a le boycott économique qui peut peser sur un pays. Mais BDS concerne aussi la culture et la recherche universitaire, en considérant que boycotter la culture et le savoir, eh bien c'est un moyen de pression politique. Et si les deux auteurs ont choisi de se concentrer sur ces deux pans du boycott, eh bien c'est parce que c'est ceux qui suscitent le plus la polémique. En gros, boycotter les oranges ou les produits fabriqués dans les colonies israéliennes implantées en Palestine, ça peut passer. Mais boycotter des auteurs et des universitaires, eh ben là, ça devient une atteinte à la liberté d'expression, parce que finalement, ça revient à empêcher les opposants israéliens de s'exprimer. Il faut savoir que Manuel Valls en France et Justin Trudeau au Canada ont quand même appelé à légiférer contre le mouvement BDS, qui finalement n'est rien de moins qu'un mouvement de défense pacifiste. Alors, c'est là que ce petit livre est absolument passionnant. D'abord parce qu'il décrypte le mécanisme israélien de propagande culturelle. Il faut savoir que cette campagne BDS inquiète réellement les autorités israéliennes. En 2015, le président israélien Reuven Rivlin estimait que BDS était, je cite, « une menace stratégique de premier ordre ». Alors pour les autorités israéliennes, tout est une question de malentendu. Donc depuis 2007, le dispositif dit de la Hasbara doit aider le monde à mieux comprendre Israël via différentes méthodes mises en place au sommet de l'État. En 2015, Benjamin Netanyahou a donc créé un poste de ministre des Affaires stratégiques et de la diplomatie publique chargé de la lutte contre le BDS. Et là, c'est la grosse armada. Les moyens alloués ont atteint 30 millions d'euros en 2016. Le but, c'est de diffuser la bonne parole partout dans le monde et de faire oublier l'image de guerre qui est trop associée à Israël. Donc, opération marketing en cours, il faut changer l'image déplorable du pays et faire d'Israël une source d'attraction touristique et économique et surtout compatible avec le mode de vie occidental. Voilà comment Tel Aviv devient « the place to be » et la terre d'élection de la communauté LGBT. Comment Israël devient une démocratie exemplaire où la presse bénéficie d'une large liberté d'expression. Ou encore comment sur le plan économique, Israël est la nouvelle start-up nation. En quelques années, le conflit palestinien est passé au second plan pour faire du pays la destination à la mode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour y arriver, Israël emploie tout un tas de médiateurs. Et notamment des médiateurs numériques, dont le job consiste à diffuser la bonne parole via les réseaux sociaux. Alors, il s'agit de citoyens israéliens bénévoles, mais aussi de juifs sionistes, recrutés dans le monde entier, qui sont formés pour répondre aux commentaires postés sur le web suite à des articles de presse, par exemple. Les étudiants israéliens à l'étranger sont également de parfaits porte-parole de l'État sur les campus où Israël est un peu mis à mal avec les campagnes BDS. Le pays dispose aussi de chaînes YouTube, de comptes Instagram, etc. pour diffuser l'art de vivre, la créativité, l'humour israélien. Le souci, expliquent nos deux auteurs, là, c'est que tout ça n'est qu'une façade qui correspond en rien à la réalité du pays. Alors Tel Aviv est certes tournée vers l'Occident, mais visiblement c'est loin d'être le cas dans le reste du pays. Et ce que nous démontrent Eyal Sivan et Armelle Labori, c'est qu'Israël procède de la même manière avec la culture et les universitaires. D'ailleurs, le directeur général du ministère des Affaires étrangères le dit clairement, je cite, « Nous considérons la culture comme un outil de premier ordre pour la Hasbara. Je ne fais aucune différence entre la Hasbara et la culture. » Donc, il faut savoir que toutes les œuvres qui parviennent jusqu'à nous ont obtenu l'aval de la DCSA, qui est la division des affaires culturelles et scientifiques du ministère des Affaires étrangères. Et là, le but est de montrer une facette progressiste d'Israël, une facette compatible avec ce qu'attendent les Occidentaux, à savoir antimilitariste, anti-occupation, féministe, multiculturelle et pro-gay. Du coup, les œuvres autorisées traitent de sujets sociétaux internes au pays, mais plus du conflit palestinien. C'est-à-dire que quand il est question de guerre, il est question de difficulté à vivre le conflit du point de vue des Israéliens. Mais on ne voit plus d'opposition aux Palestiniens. Et la directrice d'une école de cinéma explique très clairement que les intrigues des films se tournent désormais vers l'aspect sentimental des soldats. Elle dit, je cite, « On voit des êtres humains et pas des bourreaux. Ils sont humanisés. Montrer les incertitudes de nos soldats, ça sert la cause d'Israël. » Fin de citation. Israël laisse donc s'exporter un message de dissidence, mais une dissidence choisie et assumée, qui redore son blason en montrant combien il est démocratique puisqu'il laisse l'opposition s'exprimer. Reste que cette dissidence officielle oublie juste de rappeler que la création artistique et culturelle palestinienne est entravée depuis 50 ans, à travers des théâtres fermés, des institutions artistiques saccagées, des livres censurés, des artistes emprisonnés. Et qu'il ne fait pas vraiment bon être un universitaire opposé à l'État sous peine de sanctions sévères. Bref, quand on ferme ce petit livre, on balaye rapidement, comme ça, les derniers films vus ou les derniers articles lus, et on se dit que oui, en effet, la Hasbara est redoutablement efficace.
Mométis, la poésie voyageuse. Ruth est née au nord de l'Angleterre, dans la région du Yorkshire. Sa mère lui lisait des poèmes dès son plus jeune âge. Elle est devenue sensible à la musicalité et au rythme si particulier qu'engendre la lecture de la poésie. La poétesse qu'a choisie notre lectrice d'aujourd'hui n'est pas anglaise, mais américaine. Maya Angelou, de son vrai nom Marguerite Johnson, est née en 1928. poétesse, écrivaine, actrice et militante, elle se met à écrire après l'assassinat de Martin Luther King en 1968 et devient une des figures importantes du mouvement pour les droits civiques. Ce choix de Ruth est motivé par le message d'espoir qu'elle transmet à travers ses textes, malgré les accidents de la vie. Écoutons-la nous lire « And still I rise, pourtant je m'élève ».
You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells, pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Thank you.